Bonsoir. Ce Christophe André, il m'inspire pas confiance. Il y a forcément un truc qui cloche. Ce gars qui est médecin, même pas il se la pète, spécialiste en plus. Il s'est cogné 10 ans d'études, l'internat et tout le bazar. Il bosse, il se marie, il a la maison, les trois gamines. Il y a forcément un truc qui cloche. Ses patients, au lieu de les gaver de médoc et puis de rentrer vite chez lui, maté, Barça, PSG, il les écoute, il s'en occupe. Un toubib qui écoute ses patients, déjà, c'est louche. Attends, c'est pas tout. Il a même mis une phrase de l'un d'eux dans un de ses livres. Non, mais tu te rends compte? Un médecin qui trouve que ses patients sont aussi intelligents que lui, mais d'où tu veux que ça existe? Il y a un truc qui va pas, je te dis. Même parfois, il dit « Moi aussi, j'ai des coups de mou. » Mais d'où, par où il sort ça? Un médecin, ça n'a pas de coups de mou. Les médecins, c'est comme les profs et les journalistes, zéro sous-saille, les dents et les neurones alignés. Je sais tout, je doute de rien, je vais vous expliquer la life. Moi, je vous dis que c'est un coup à la Fillon. On va s'apercevoir que le Christophe André, il en croque, comme tout le monde. Il va se présenter aux élections avec son auréole derrière la tête. Tout le monde y sent la charogne, il n'y a que le grand Dédé qui sent l'autre Cologne.
France Inter, état d'esprit. Noël Bréham.
Bonsoir Christophe André.
Bonsoir Noël Bréham.
Alors on va voir. Merci d'abord d'être venu.
Je tremble. Oui. Je tremble.
Vous n'avez pas l'air de beaucoup trembler. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors vous êtes médecin psychiatre, effectivement, spécialiste des troubles anxieux et dépressifs. Vous vous intéressez à la méditation depuis les années 90. Vous l'utilisez à des fins thérapeutiques avec vos patients de l'hôpital Sainte-Anne. Vous êtes l'auteur de nombreux livres qui marchent mieux les uns que les autres. On vous lit dans Psychologie Magazine, on vous entend ici, chez Ali Rebéi, tous les mardis. Cet été, vous avez proposé à France Culture une série « 3 minutes à méditer ». Et c'est également le titre de ce livre qui en découle, qui est édité chez l'Iconoclaste et France Culture. Il est accompagné d'un CD d'exercices de méditation. Donc « 3 minutes à méditer ». Et vous expliquez que la méditation, c'est la plus ancienne pratique du monde.
Oui, 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 sans doute la plus ancienne démarche psychologique qui ait existé depuis que les humains, finalement, ont suffisamment progressé pour être convaincus qu'ils pouvaient apaiser leurs angoisses, avoir plus de discernement. C'est une histoire passionnante que l'histoire de la méditation, et ce qui est encore plus passionnant, c'est la manière dont elle s'est installée dans nos sociétés depuis quelques années, contre toute attente d'ailleurs, nos sociétés très matérialistes, très obsédées par le succès, la réussite, le rendement, la performance, qu'on ait pu voir la méditation débouler comme ça, qui véhicule un discours inverse, qui dit
oui,
au fond...
complètement à contre-courant.
Ouais, ouais, ouais. Et ça, je trouve ça passionnant. Il y a des explications, évidemment, mais ouais. ça me touche beaucoup.
C'est l'anti-Rolex, quoi.
Exactement.
Ouais. Mais alors, quand vous dites, Christophe André, il y a des explications, évidemment. Alors, on entend, par exemple, chez les... barré raisonnable, on va dire, parce que les barrés nous intéressent pas, que ça a justement été envoyé sur le monde pour essayer d'aider les hommes à lutter contre ce stress géant qui envahit notre planète.
Ah oui, alors je ne sais pas si ça a été envoyé par quelqu'un ou par une entité. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ça joue un rôle compensatoire, un peu comme le sport, l'activité physique joue un rôle compensatoire par rapport à notre sédentarité. Nos sociétés sont devenues sédentaires et on a bien compris qu'il fallait continuer d'agiter nos corps pour ne pas tomber malade. Et de même, nos sociétés sont devenues très agitées du bocal, j'allais dire, avec trop de sollicitations, d'informations, de déstabilisation...
C'est vrai qu'on est gavé. Hein.
Ouais, voilà, ouais. De disruption finalement dans nos esprits, des pubs, des messages, des écrans. Et on a besoin de reconstruire une forme d'équilibre. Et c'est ce que nous apporte la méditation. Au fond, chaque fois qu'on médite, on nourrit son esprit et son corps de calme, de lenteur, de continuité dont nous privent nos modes de vie contemporains.
Mais alors si vous dites, Christophe André, que cette méditation existe depuis 2000 ans, il y a 2000 ans, on n'avait pas les écrans, précipitation...
Non, on n'avait pas ça, on avait d'autres problèmes, on avait des sociétés beaucoup plus violentes, plus terrifiantes, on avait les problèmes de tout être humain, quelle que soit l'époque, des problèmes existentiels, d'où je viens, où je vais, qu'est-ce qui se passe après ma mort, pourquoi y a-t-il tant de souffrances, hein, vous savez, les plus anciennes traditions méditatives viennent du bouddhisme, et les grandes questions du bouddhisme tournent autour de la souffrance, de la régulation de la souffrance, etc.
Pourquoi donc, je souffre, comment je pourrais faire pour ne plus souffrir?
Exactement, ce qu'on appelle les quatre nobles vérités dans le bouddhisme.
C'est-à-dire
ces quatre questions. Mais d'abord, la souffrance existe. Deuxièmement, la souffrance a des solutions. Troisièmement, il existe une manière de mettre en œuvre ces solutions. Et puis, il y en a une quatrième que j'ai oubliée.
Comme les clés, il ne faut pas chercher, il faut que ça revienne.
Et donc, cette flambée de l'intérêt pour la méditation prend sur un terreau universel, mais s'explique aussi par des évolutions de nos conditions de vie contemporaines.
Mais comment vous savez finalement qu'autrefois on méditait ?
Ah ben on a la trace.
Il y a 2000 ans.
Tout l'enseignement du Bouddha est quand même versé vers des exercices méditatifs extrêmement nombreux dans toutes les traditions. Les pères de l'Église, alors ça ne fait pas tout à fait 2000 ans, ça fait 1800 ans. Donc ces premiers grands de figures de la chrétienté qui vivaient notamment dans le désert en Égypte au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ ont laissé des écrits très explicites sur des exercices de méditation, se poser, suivre son souffle, ouvrir son cœur et son âme. Alors, eux l'ouvrent à Dieu, mais on peut l'ouvrir à l'univers, aux principes vitaux, etc. Et on a des traces tout à fait historiques montrant cette aspiration des humains vers les pratiques méditatives.
Alors, nous allons tout au long de cette heure avec vous, Christophe André, parler méditation, voir un peu quelle est la différence entre la vôtre, dont vous parlez dans ce livre, 3 minutes à méditer, édité chez l'Iconoclaste, et puis la méditation qui est arrivée dans les années 70, celle de David Lynch, entre autres, et de bien des stars de cette époque. Nous allons parler de Jules Renard. Et puis nous allons entendre un extrait de cette méditation que vous proposez, Christophe André, 3 minutes par jour, puisque ce livre est accompagné d'un CD.
We're all gonna be alright. We're gonna be alright.
Weekend. Ouhou, ça ressemble un petit peu aux années 70, mais ça n'en est pas.
Noël Bréham, État d'esprit, sur France Inter.
Et Christophe André, puisque justement nous évoquons les années 70, retournons-y pour entendre un petit peu cette vague de méditation dite transcendantale qui à l'époque était beaucoup plus portée par des gourous ou des artistes que par des médecins. Écoutons le cinéaste David Lynch.
I looked inside, I was hollow in the happiness department. And I said, I gotta get that. And so I started a transcendental meditation.
Voici ce qu'il a dit. Je sentais un grand vide à l'intérieur de moi. En matière de bonheur, c'était le néant. Je me suis dit, je n'arrive pas à obtenir ce truc. Alors, je me suis mise à faire de la méditation transcendantale. Et David Lynch a fondé, en 2005, une fondation. David Lynch, dont vous pouvez voir la vie là en ce moment, un film de John Nguyen qui vient de sortir sur les écrans et qui s'appelle Art Life. Alors Christophe André, si on vous a fait écouter David Lynch, je voudrais savoir si la vôtre est la même que la sienne de méditation.
Non, pas tout à fait. C'est vrai que quand on dit la méditation, on devrait dire les méditations, parce qu'il y a des traditions très nombreuses, hein, le zen, les traditions méditatives tibétaines, chrétiennes, les soufis dans l'islam, etc. En gros, la méditation qu'on pratique beaucoup aujourd'hui, celle dont je parle dans mon livre, celle qu'on pratique dans les hôpitaux, à l'école, globalement dans tout l'Occident actuellement, et puis dans le monde entier également, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, qui est un type de méditation très très simple, très laïque également. On a emprunté au bouddhisme et on a laïcisé, qui est aussi une méditation validée par la recherche scientifique. Bref, c'est très spécifique, donc cette pleine conscience qui consiste à se rendre présent à ce que nous vivons, à chaque seconde, à l'ensemble de ce que nous vivons, notre souffle, nos sensations corporelles, ce que nous entendons, nos pensées, etc. C'est ce qu'on appelle une méditation par ouverture attentionnelle. On laisse son attention accueillir tout ce qui se passe. La méditation transcendantale, qui était effectivement très à la mode dans les années 60-70, voilà, c'est celle que pratiquaient les Beatles aussi, qui en étaient fans, qui allaient faire des retraites en Inde, etc. C'est une méditation très différente où, au contraire, on va focaliser, resserrer son attention sur un seul objet précis, sur un mantra qu'on se répète, sur la flamme d'une bougie. Et donc, vous voyez, dans ces traditions méditatives, certaines sont faites de focalisation, de concentration, on répète à l'infini un mantra, une phrase, et d'autres, au contraire, sont des méditations d'ouverture totale. On se rend présent absolument à tout ce qui existe.
Mais le but est le même, finalement?
Alors, le but est plus ou moins le même. Le but, si vous voulez, le but, en gros, de toutes les pratique méditative, c'est à la fois la pacification émotionnelle, un état d'apaisement, mais aussi un état de discernement, une clarification intellectuelle, être plus au clair avec ce qui nous arrive, avec notre vision du monde, avec le tourbillon des émotions et des pensées. Ça, c'est la destination finale et les chemins pour s'en rapprocher sont variés.
Mais est-ce que finalement, ce n'est pas aussi pour arrêter ce que le moine vietnamien Nishnat Hanh appelle la radio de notre mental, que vous reprenez vous aussi, Christophe André? C'est terrible ce que vous dites. Essayez de chasser la pensée par la pensée.
Mais c'est pas, justement, c'est pas ce qu'on dit. Ça, c'est une idée reçue. Effectivement, c'est une attente aussi fréquente. L'idée, c'est qu'on ne peut pas empêcher notre cerveau de penser.
C'est son job.
Voilà, il fait son boulot. Nos poumons respirent, nos intestins digèrent et notre cerveau pense. Alors, si vous décidez que la méditation va vous aider à bloquer le fil de vos pensées, c'est une très mauvaise idée, une très mauvaise attente et ça ne marchera pas. L'idée, c'est de prendre du recul par rapport à ce phénomène, c'est-à-dire de s'apercevoir, évidemment, que nous avons des pensées, certaines angoissantes, obsédantes, récurrentes et toujours, toujours à peu près incontrôlables, et de décider, non pas de se focaliser sur elles pour les bloquer, mais de les laisser filer et de s'intéresser aussi à tout le reste. Et c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on croit, la méditation est aussi une pratique très corporelle. Quand vous avez une pensée qui vous obsède, le meilleur moyen pour vous en libérer, c'est pas de surpenser ou d'essayer de la chasser, c'est d'aller marcher, de respirer, de ressentir tout ce qui se passe d'autre en vous, de vous mettre à regarder, à écouter, à voir ce qui se passe dans vos petits orteils, à suivre votre souffle. Et chaque fois que votre attention se referme sur la pensée, rouvrir cette attention à l'ensemble de ce qui se passe pour vous à cet instant. Donc, je ne vous dis pas que c'est facile. C'est un entraînement et c'est pour ça que la méditation, ce n'est pas un truc qui se décide, mais qui s'apprend. Par contre, c'est quelque chose qui marche remarquablement bien et on a beaucoup d'études montrant que pour nos patients, par exemple, de Sainte-Anne, nos patients très anxieux, très déprimés, que nous avons à aider dans le service où je travaille, eh bien, c'est comme ça que marche la méditation. On ne les transforme pas en grands sages, en grands mystiques, en personnes qui ont totalement fait le vide dans leurs pensées. On leur apprend juste à ne plus se noyer dans ses pensées qui les tourmentent.
Et oui, parce que voilà, ne plus se noyer, parce que quand on est très très anxieux, on se dit, mais il est marrant lui, moi j'ai envie de me jeter dans la Seine et il me dit qu'il faut que je pense à mon souffle ou à mes doigts de pied, mais ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr, mais si vous voulez, c'est un peu comme pour quelqu'un qui n'a jamais couru, si je lui dis, vous pouvez courir 42 km. Il va me dire, mais attendez, au bout de 3 marches, je peux plus, même plus respirer. Ouais. Je vais dire, très bien, on a un an, tranquille, on va s'entraîner tous les jours.
C'est pas un miracle.
Ça n'est pas une décision qui va porter ses fruits du jour au lendemain. D'accord. C'est pas un miracle, c'est un apprentissage. Mmh. Si je vous mets un violon dans les mains et que je vous dis un jour vous saurez en jouer, ça va vous faire rire parce que tous les sons que vous arrivez à en extraire sont des sons affreux. Mais si vous prenez vos leçons, si vous suivez mes conseils, au bout d'un an vous saurez jouer du violon, tout comme vous serez capable de faire des belles séances de méditation.
Allez, on commence maintenant. Il y a un chapitre qui s'appelle « Angoisse, inquiétude et rumination ». C'est à la page 145. Puisque vous évoquiez justement l'inquiétude, en plus moi je connais bien l'inquiétude. Alors, on écoute justement un extrait de cette méditation.
C'est comme si vous étiez pris dans le courant d'un torrent très puissant, le torrent de l'anxiété. Pour ne pas vous épuiser, vous noyer, ne luttez pas. Acceptez de vous laisser porter par ce courant dans un premier temps. Puis, dirigez-vous doucement vers la berge. Asseyez-vous sur le bord. Le torrent est toujours là, mais vous le regardez passer. Au lieu d'y être immergé.
Ça, c'est vraiment nouveau, Christophe André. On ne lutte pas. Avant, on disait quoi ? T'as le cafard, mais pense, comme tu as de la chance, t'as un travail, t'as des enfants, t'es beau gosse. C'est plus du tout ça qu'on fait. On se laisse embarquer dans ces pensées noires comme dans le torrent.
Oui, c'est peut-être pas qu'on ne fait plus comme autrefois. C'est-à-dire ce qu'apporte la méditation, notamment en psychothérapie, en psychologie, puisque cet extrait parlait de nos angoisses.
Je rappelle que c'est la leçon 24, c'est pas la première.
Voilà. Oui. C'est qu'elle nous propose une autre voie. Moi, je ne vous dis pas que quand on est inquiet, ça n'est pas une bonne idée d'essayer de penser à autre chose ou de se raisonner, de se dire « Mais attends, pourquoi tu es inquiet ? Est-ce que tu as des arguments ?» Ça reste des manières...
Ah, on garde ça.
Oui,
on
ça,
garde.
On peut garder. Simplement, ça ne marche pas toujours. Parfois, on n'arrive pas à penser à autre chose. Parfois, on a beau savoir qu'on est stupide de s'inquiéter.
On
les
s'inquiète quand même.
Les inquiétudes sont toujours là. Et donc, quand on sent que nos bonnes vieilles stratégies habituelles, rationnelles, logiques ne marchent pas, ça vaut le coup de se dire « Ok, lâche tout. Contente-toi de te poser, de respirer et regarde ces pensées. Ok, tu vas finir ruiné, tu vas mourir, c'est la catastrophe, la maison va brûler, les cambrioleurs vont passer. Laisse filer tout ça, ce sont des pensées. Pour l'instant, ce sont des pensées. Toi, reste dans cet instant de réel. Tout ça, ça t'entraîne vers le virtuel, reste dans le réel. Et pour rester dans le réel, respire. Ressent ton corps, écoute les sons. C'est aussi simple que ça, mais là encore, ça n'est pas facile. Par contre, ce qu'on voit chez nos patients qui apprennent à pratiquer ces stratégies, d'abord sur des petites angoisses, après sur des angoisses plus fortes, hein, si ce sont des angoisses terribles, ça ne va pas marcher évidemment, c'est que peu à peu, ils commencent à comprendre qu'il y a une différence entre se faire du souci et être confronté à une vraie difficulté, que très souvent nous doublons notre dose de souffrance parce que nous sommes aspirés par le virtuel de nos scénarios catastrophes.
Ah, ça, c'est sûr que pour un anxieux, et encore une fois je sais de quoi je parle, pour un anxieux, un rhume c'est la tuberculose.
Voilà, c'est la tuberculose, on ne guérira jamais, on aura des séquelles, ou que sais-je encore.
Avec donc, une épidémie
ouais, le cerveau il va tout seul. Le cerveau il va tout seul, donc ça, on ne pourra pas empêcher l'apparition et le flot de ses pensées. On peut juste essayer de ne pas s'y noyer, de ne pas les alimenter, de ne pas y croire trop fort.
D'accord. J'aime bien cette idée que pour pas se noyer, on le sait tous, hein, tous les gens qui ont été en difficulté au bord de la mer, on dit que par exemple, si vous êtes emporté par une vague, faut pas lutter contre la mer. Vous pensez bien contre l'océan, on n'est pas le plus fort. Laisse-toi emporter par la vague, elle finira bien par te déposer quelque part.
Absolument.
Et
absolument.
Même si c'est au large, finalement, bah, c'est quand même quelque part où on ira te repêcher.
Oui, oui, oui.
Tandis que si tu nages à contre-courant, tu t'épuises et tu coules.
Voilà. Et si tu t'affoles, tu boiras la tasse. Donc, tous ces conseils, évidemment, sont très, très logiques. Et la méditation, c'est juste ce qu'on appelle un entraînement de l'esprit. On s'entraîne à mieux comprendre le fonctionnement de notre esprit. Et je peux vous dire que c'est très utile.
Cette chose m'étonne, mais les choses qu'elle disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so. I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends. But I'm wising up to them. Making friends with the fireflies. You know when they die, their light stays alive. And the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Cette chose m'étonne, mais les choses qu'elles disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean.
Un homme ou une femme? Si je vous pose la question, c'est qu'évidemment, c'est pas celui qu'on croit ou celle qu'on croit. C'est Chris Garneau et c'est un homme. Et je sais pas si vous avez entendu, il chante « Prends ton temps ». La chanson s'appelle « Luciole ».« Prends ton temps ». Et ça, c'est quelque chose que vous avez d'assez particulier, Christophe André. Moi, j'ai passé ma vie à dire à mes enfants de se dépêcher, comme tout le monde d'ailleurs. Celui qui est rapide est bien noté. Et on a l'impression qu'il est brillant, qu'il est tonique. Et vous avez deux particularités. Vous aimez les timides, un peu les faibles, ceux qui sont à côté, quoi, et les lents. Et ça, ça n'a pas bonne presse à l'heure actuelle.
Non, mais c'est justement peut-être pour ça qu'il faut protéger ces deux espèces que sont les timides et les lents. Parce que imaginez une société où personne ne serait timide, une société de grandes gueules narcissiques qui voudraient tous passer les premiers au buffet de l'entreprise et parler plus longtemps que les autres. Ça serait rapidement l'enfer.
Bah, c'est un petit peu...
non, justement, c'est parce qu'il y a à peu près 30 à 40% de personnes timides qui justement vous laissent la place et tout, que c'est vivable. Mais ce qui nous agace sont les malotrus, mais heureusement qu'il y a beaucoup plus de gens sympas. Et c'est pareil pour le speed, les gens toujours en train de galoper, de courir. Et cette société aussi qui nous intoxique en nous faisant croire qu'être réactif, c'est être performant et intelligent.
Performant.
C'est ça, les gens qui finissent leur mail ou leur message téléphonique en vous disant « à très vite ». Ben non, pourquoi très vite? Merde, je vivre, je respirer, j'ai pas forcément besoin, le message n'impose pas forcément
très
besoin.
Très vite, c'est vrai?
Ouais, qu'on réponde très vite.
D'ailleurs, quand on répond pas tout de suite, on se fait attraper souvent.
Ben, si vous répondez pas au mail, au SMS ou au coup de téléphone, on vous en rebalance un autre au bout d'une demi-heure, d'une heure. Voilà, t'es où? Tu fais quoi? Pourquoi tu réponds pas? Donc, ça, c'est un poison. Potentiellement, non pas que aller vite ou être réactif soit un problème en soi, ça ne devient un problème que quand c'est la valeur dominante, que quand c'est la norme, que quand c'est une obligation. La vie doit être faite de temps différents et des moments où il faut faire vite et puis d'autres où c'est stupide de faire vite ou c'est toxique de faire vite. Si vous lisez une histoire à un de vos enfants le soir, si vous avez décidé de faire vite, eh bien c'est tellement con qu'il vaut mieux ne pas lire d'histoire du tout parce que votre enfant va sentir qu'il est en trop, que vous êtes là à contre-cœur, donc ça serait quelque chose d'absurde. Et ce que j'aime effectivement dans la méditation, c'est qu'elle nous rappelle, parce que moi, je ne suis pas un modèle, je ne suis pas un saint dans ce domaine-là, j'ai tendance, comme tout le monde, à vouloir aller vite, rapidement, même si ça fait quelques années que j'ai compris à quel point c'était stupide, mais quand même, nous sommes tous exposés à ces injonctions sociales d'accélération, de vitesse et de réactivité qui, non seulement, et une fois de plus, ne sont pas toujours adaptées, mais qui, en plus, nous font du mal, parce que nous avons besoin de temps de lenteur, de temps de calme. C'est vital pour notre équilibre, notre santé, notre créativité.
Comme si on demandait à une salade de pousser plus vite, quoi. Il y a un temps incompressible pour faire ce qu'on a à faire.
Exactement. Il y a des domaines de notre vie où il n'y a pas de raccourci. Vous ne pouvez pas pousser votre enfant à grandir plus vite, vos fleurs à pousser plus vite. Encore que, on nous vend des engrais, c'est etc., vrai. Des trucs comme ça. Mais...
des lampes.
Ouais.
Mais alors, il y a une chose que je me demande, Christophe André, c'est une question, c'est que finalement, entre le méditant qui réussit, qui a réussi à chasser ses angoisses, qui a compris que la précipitation était toxique et tout ça, on a l'impression que ça va avec cette sagesse, cette lenteur, avec quelque chose d'un peu terne et ennuyeux. Tandis que celui qui va vite, on a l'impression que c'est clinquant et qui se marre. Moi, j'ai envie de me marrer dans la vie. J'ai pas envie d'être anxieuse, j'aimerais bien chasser mon anxiété. Mais j'ai pas non plus envie de passer ma vie focalisée sur ma respiration. J'ai envie de rigoler.
Ouais, mais ça, c'est une posture de débutant, c'est-à-dire effectivement ce côté très sérieux, regarde comme je suis lent, regarde comme je suis zen. On l'adopte au début, dans les premiers mois où on fait de la méditation, on fait un peu le malin pour épater la famille, les copains. Puis au bout d'un moment, on comprend que c'est idiot parce que toute notre vie, on aura à lutter contre ça. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les quelques grands maîtres, notamment tibétains que j'ai pu rencontrer en matière de méditation, dont le Dalai Lama, sont des rigolos.
Ah,
le Dalai Lama,
ça,
vous passez, vous passez du temps avec lui. Il n'arrête pas de rire, de se taper sur les cuisses. Il aime la vie. C'est quelqu'un de joyeux. Et donc, la pratique de la méditation n'a absolument pas pour objectif de faire de nous des êtres qui ont pris leur distance.
C'est vert et sombre.
Ouais, puis qui ont pris leur distance avec tout, qui sont indifférents à tout. La méditation ne nous empêche pas de nous réjouir, de souffrir, de nous inquiéter, de nous énerver. Mais elle nous évite de le faire de manière disproportionnée. Trop souvent, trop longtemps, trop intensément. Mais on reste un être humain, évidemment.
Mais est-ce qu'on a le droit d'être bête, par exemple? Vous avez parfois l'humour. Non, mais c'est vrai, un peu l'humour de potage, quoi. On a envie de dire des trucs qui sont pas réfléchis, qui sont pas malins, qui sont... Voilà, et puis on rigole.
Mais où est le problème? La méditation n'a pas pour objectif de nous déshumaniser. Simplement, elle a pour objectif de nous apaiser, de nous faire réfléchir. Par exemple, quelqu'un qui fait des blagues de potache, un peu bêtasse, etc.
Mauvais goût, mais...
De temps en temps, c'est parfait. Le problème se pose, vous savez, avec des personnes qui ne communiquent qu'en blaguant, qu'en faisant des jeux de mots.
À la Cyril Hanouna, quoi,
voilà.
Pour ne citer personne.
Lui, je crois que c'est encore plus grave que ça pour lui. Mais même des gens sympas qui ont peur de communiquer, qui ont peur d'échanger, qui ont peur de se révéler.
Ça, c'est une posture.
Ce sont des postures. Et effectivement, ce à quoi peut nous aider la méditation, c'est d'abandonner ces espèces de masques sociaux, de postures, de faire semblant d'être sage, faire semblant d'être zen, faire semblant d'être drôle, faire semblant d'être intelligent. Ça nous alourdit tout ça, ça nous fait souffrir, c'est idiot.
Ah, ça me fait penser, Christophe André, ce que vous venez de dire, ça me fait penser à quelqu'un que vous aimez bien, Jules Renard, et qui dit « Être heureux, ce n'est pas faire semblant d'être heureux. »
Absolument. Ouais. Ouais. Ah ben, Jules Renard, c'était quelqu'un dont le journal est un trésor de psychologie. Ah, j'adore ce bonhomme.
Ouais. Ouais. C'est-à-dire que c'est vous qui me l'avez fait découvrir. Moi, je connaissais Madame le Pic-Poil de Carotte, qui est déjà une merveille.
Mais c'est
vous qui m'avez fait lire le journal, qui est une
super merveille.
Qui est une super merveille. Guillaume Gallienne chez nous, Christophe André, dans Ça ne peut pas faire de mal, a évidemment un jour lu des textes de Jules Renard. On en écoute un court extrait si vous voulez bien.
2 avril. Les gens heureux n'ont pas de talent. Ma littérature n'est qu'une continuelle rectification de ce que j'éprouve dans la vie. J'écrirai un livre qui étonnera mes amis. Je ne me croirais pas supérieur aux autres comme Goncourt. Je ne dirais pas de mal de moi pour qu'on m'excuse comme Rousseau. Je tâcherais seulement de voir clair, de faire en moi la lumière pour les autres et pour moi.
C'est donc extrait de ce journal de Jules Renard que vous aimez tant, Christophe André.
Oui. Et là, cet extrait montre bien toutes les qualités de Jules Renard, à la fois le doute, le tourment intérieur, la conscience d'être un bon écrivain, mais de ne pas être un génie, mais le désir de voir clair, d'être honnête, au moins avec son journal, parce qu'après, Jules Renard est pris dans ce cirque des apparences, des mondanités. Il fréquente beaucoup les milieux littéraires de son époque, il aspire à devenir un grand écrivain, mais tout au fond de lui, il sait qu'il n'est pas un véritable grand écrivain parce qu'il n'est pas assez égoïste, il n'est pas assez sauvage, il n'est pas assez fou pour ça. Il est juste un très grand être humain, capable de sonder son cœur et ses reins, comme on dit dans la Bible, capable d'une terrible honnêteté. Il y a des passages de son journal qui sont d'un courage, d'une honnêteté absolue.
Ah oui.
C'est pour ça que c'est un véritable chef-d'œuvre de sincérité, de subtilité qu'il faut absolument lire.
Vous citez dans ces 3 minutes à méditer chez l'iconoclaste, Christophe André, cette phrase de Jules Renard, la salle d'attente, c'est quoi ? Je ne sais pas le mettre dans l'ordre.
Dans la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente.
Got this in pocket, gunpowder, I'm gonna use it, intention. Motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep.
C'était les Pretenders.
État d'esprit sur France Inter.
Christophe André, nous parlons de méditation avec vous et ce dernier livre édité chez l'Iconoclaste et France Culture, c'est 3 minutes à méditer. Vous êtes médecin psychiatre, on vient d'entendre les Pretenders, c'est un groupe qui a été ravagé par la cocaïne et les drames, et ce ne sont hélas pas les seuls. Qu'est-ce qu'on fait, vous parlez de l'anxiété, mais qu'est-ce qu'on fait contre les addictions? C'est quoi cette déferlante de ces drogues dures? Qu'est-ce qui fait que ces artistes se sont drogués jusqu'à la mort? Et comment en faire pour que ça ne nous arrive pas, ni à nous, ni à nos enfants, surtout?
En général, dans les addictions, il y a deux choses qui sont, d'une part, l'évitement de la souffrance. On prend souvent de la drogue, de l'alcool, de toutes sortes de substances pour limiter un certain nombre de souffrances, qu'il s'agisse d'angoisse, de désespoir. Et puis, il y a un autre versant qui est la recherche de sensations fortes, la recherche de nouveaux horizons, de nouveaux univers, parce que celui dans lequel nous sommes nous paraît un peu terne, un peu insuffisant. Dans les deux cas, les pratiques méditatives proposent des réponses. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir des programmes qu'on teste auprès de personnes qui sont dépendantes, qu'il s'agisse de l'alcool, des drogues, du jeu.
Ça marche aussi avec ces dépendances-là.
Et il semble que ça marche. Alors, à plusieurs niveaux. D'abord, parce que ça marche avec ceux qui le demandent et ceux qui le souhaitent, évidemment. Puisque là,
ça, c'est comme tout.
Oui, voilà, on est dans le cadre de psychothérapie, donc il faut qu'il y ait un engagement, ou au moins une curiosité, une participation minimale. Ça marche d'abord parce que la méditation accroît notre discernement. C'est-à-dire qu'on voit mieux naître nos besoins et nos impulsions. C'est un des entraînements centraux des pratiques méditatives, c'est de voir naître l'envie d'agir, l'envie de pleurer, l'envie de cogner, l'envie de boire. Et si on prend ces envies à leur naissance, si on en observe le scénario, on se dit mais d'où ça part, qu'est-ce que ça provoque dans mon corps, peu à peu, on arrive à mieux lutter contre ce que les médecins addictologues appellent le craving, c'est-à-dire l'impulsion vers la substance. Oui. On arrive à interposer sa conscience entre soi et puis le verre de vin qu'on est en train d'avaler, etc.
C'est vrai que ça dure une seconde.
Ah, ça va très vite.
Oui, hop, on avale un verre. Voilà, hop, on prend, je ne sais pas quoi, une ligne de coke.
Ouais. Et on commence à voir comment ça se passe au point de vue de la neuropsychologie, au point de vue de la neuroimagerie. C'est vraiment une sorte d'embrasement cérébral qui passe par les circuits du désir, de la difficulté à contrôler ses impulsions, plus que par ceux du plaisir. D'ailleurs, ce qui est terrible dans les dépendances, les addictions, c'est qu'au bout d'un moment, il s'agit juste de soulager sa souffrance, son état de manque, plus que d'aller vers du plaisir qui sera forcément beaucoup moins fort que les premières fois. Donc il y a cette meilleure connaissance de soi, cette meilleure régulation de la souffrance, mais il y a aussi que dans la méditation, on apprend à savourer notre vie telle qu'elle est, on apprend à se rendre présent à la beauté de l'existence ordinaire, à regarder le ciel, à écouter les oiseaux, ce dont en général les personnes toxicomanes, alcooliques, etc. sont privées. Elles ne sont plus dans la présence au monde, elles sont dans une sorte de quête d'état un petit peu extrême ou d'état un petit peu anesthésié. Et elles n'arrivent plus à se nourrir de la beauté du monde, de la douceur du monde, etc.
Je pense justement, parce qu'on a passé les Pretenders, à ces rockstars qui ont un parterre de public qui sont pris par... C'est une force énorme quand même d'être seul sur scène. Et vous arrivez avec votre oiseau derrière.
Non, mais ça n'empêche pas... Non, mais vous savez, on pourrait retourner l'argument, on pourrait dire, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils vont aller se foutre la tête à l'envers alors qu'ils vivent déjà des choses exceptionnelles, être devant une salle de 20 000 personnes qui vous acclament, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller picoler après?
Mais parce que quand ça s'arrête, c'est vide, on se sent vide, vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement dense.
Alors à ce moment-là, ça ne concernerait que ceux qui sont en perte d'audience ou de public, mais ceux qui savent qu'ils sont aimés par des millions de personnes, pourquoi vont-ils se foutre là-dedans? Donc, moi, je n'ai pas de réponse. Malheureusement.
Mais je me pose cette question. Par exemple, là, on parle des rockstars parce que c'est extrême, donc c'est spectaculaire. Oui. Mais tous les gens qui, par exemple, pour une raison ou une autre, arrêtent leur travail parce que malheureusement, ils le perdent ou parce qu'ils prennent leur retraite, tout d'un coup, on a l'impression qu'ils tombent dans une espèce de gouffre, d'abîme, comme son nom l'indique, sans fond.
Oui, oui, en tout cas, ils peuvent y tomber. C'est-à-dire, après, là, on retombe sur des réflexions plus vastes en matière d'équilibre psychologique. C'est-à-dire, c'est toujours le même bon vieux précepte de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si votre travail est tout pour vous dans votre vie, le jour où vous le perdez, vous êtes en danger de mort. Ouais. Si, par contre, vous avez aussi beaucoup d'amis avec qui vous faites de la randonnée, si votre famille est globalement une source de plaisir, d'espoir, d'équilibre, de rigolade, si vous avez des passions, le choc sera un petit peu moins rude. Donc après, ça interroge la manière dont nous construisons nos équilibres de vie, bien évidemment.
Mais vous voyez, le prenez pas mal, hein, Christophe André. j'essaie de comprendre. Mais ce que je me dis, c'est que pour que cette vie de sagesse, de méditation, de vraie vie, d'être vraiment présent à soi-même, présent au monde, de goûter le fait qu'on respire, qu'on peut manger de bonnes choses, qu'on se regarde, qu'on est dans un studio confortable et tout ça, par rapport à des vies plus toxiques et plus denses, toutes ces choses-là qui paraissent logiques et sages, ça fait cucu. Vous voyez, quand on dit tu respires, tu regardes les nuages, tu sens l'air, tu t'aperçois que tes amis sont sympas, on comprend qu'on soit attiré par des choses qui ont l'air plus intenses et que toute cette sagesse qui en fait est dense a l'air cucu.
Je ne suis pas sûr que cet avis soit partagé par la majorité des gens, mais admettons, une fois de plus, le projet des pratiques méditatives, puisque c'est de ça que nous parlons, n'est pas du tout d'être hégémonique, de faire méditer tout le monde, c'est de dire, au fond, il y a plusieurs options de vie. Vous pouvez décider de vivre pour le fric, vous pouvez décider de vivre pour la puissance, pour la gloire, pour le sexe, et puis vous pouvez décider de vivre pour simplement le bonheur, vous sentir bien, vous sentir content d'exister.
Mais est-ce que c'est l'éclate?
Ça n'est pas l'éclate, sans doute, au sens où l'entendrait la rockstar imaginaire à laquelle vous faites allusion, c'est-à-dire monter sur scène, totalement défoncé, coucher avec plein de monde, le lendemain on se réveille, on ne sait plus avec qui on a couché, ce qu'on a absorbé, on est dans un jet qui nous amène aux Bahamas, bon, on s'emmerde à l'aéroport, on s'achète 4 Rolex.
Pas l'éclate non plus.
C'est peut-être l'éclate pour certaines personnes, mais ce sont des choix de vie. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous ont pour choix de vie de ne pas trop souffrir, de ne pas trop faire souffrir, de voir des belles choses, de vivre des belles choses. Et c'est peut-être un peu plus accessible à la plupart d'entre nous.
C'est l'éclate profonde.
C'est l'éclate subtile.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait, ne travaillait jamais. Paréo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un bal d'aquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. Ne parlez pas d'amour. L'amour, c'est quoi? Ne parlez jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Thank you. c'était l'amour, je m'y connais. Jusqu'à ce jour de fin juillet, elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale, l'amour, le vrai, le beau, s'était barré au galop.
Albin de la Simone, le grand amour.
Noël Bréham, état d'esprit sur France Inter.
Nous parlons méditation, Christophe André, avec vous aujourd'hui pour la sortie de ce livre 3 minutes à méditer. Ce sont donc livres et CD, des leçons de méditation accessibles à tous et à toutes, simples. C'est édité chez l'Iconoclaste et France Culture. Depuis le début de cette émission, état d'esprit, nous n'avons pas parlé d'amour, c'est quand même la grande affaire de la vie, non?
Clairement, ouais. Oui, clairement. C'est l'amour qui fait de nous des êtres humains. Si on ne reçoit pas d'amour étant petit, on reste des animaux. C'est très bien les animaux, mais ce qui fait de nous des humains, c'est l'amour qu'on reçoit et puis qu'on redonne.
Les animaux ont de l'amour et ils en donnent, non?
Oui, 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 mais peut-être de manière différente. Je pense que l'amour, enfin, remarquez, je suis pas zoologue, hein, je dis peut-être des bêtises, mais quand on regarde les cas des enfants loups, les cas des gamins qui finalement ont vécu sans recevoir d'amour de la part d'adultes, ils sont capables d'amour certainement de manière très rudimentaire. Je pense que l'amour des humains est très élaboré, il passe par la parole, il évolue au fur et à mesure que nos enfants grandissent. On n'aime pas de la même façon son adolescent comme petit nourrisson, ne lui donne pas la même quantité. Effectivement, c'est la grande nourriture, avec un grand N, de l'être humain.
Alors, que sommes-nous venus faire sur cette terre, pensez-vous, Christophe André?
Ah, sincèrement, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai une conviction sur ce que nous avons à faire sur cette terre. On ne sait pas très bien pourquoi on nous y a envoyé. Mais par contre, ce que nous avons à faire, c'est justement tout ce qui tourne autour de la souffrance. C'est essayer de souffrir le moins possible, de faire souffrir le moins possible et d'aider les personnes autour de nous à souffrir le moins possible. Et ça, c'est déjà un programme qui remplit notre vie.
Alors, à propos de souffrance, les uns disent que la souffrance, c'est ce qui fait avancer, que la joie fige et que la souffrance fait évoluer. Et les autres, dont ce philosophe sympathique, nous en parlions pendant le disque, Ruven Ogyen, qui a écrit « Mes mille et une nuits » chez Albin Michel, qui est atteint d'une maladie qui le fait souffrir, dit que ce sont des balivernes et que c'est grave parce que non seulement il souffre, mais en plus, il culpabilise de ne pas trouver l'évolution dans la souffrance. C'est-à-dire qu'on culpabilise ceux qui souffrent de ne pas en tirer profit.
Oui, oui, oui. Bah oui, c'est tout part de cette fameuse phrase de Nietzsche. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Autrement dit, plus t'en baves, plus t'es costaud. À part que, parfois, ce qui ne nous tue pas nous rend boiteux, nous rend traumatisés, nous rend infirmes, nous rend fragilisés. Et effectivement, ce que dit Ruven Ogyen, donc, qui est un philosophe contemporain, très intéressant, c'est que ce truc est faux, ce truc est tyrannique, ce truc est étouffant de valoriser comme ça la souffrance, de dire qu'il n'y a pas d'autre voie de connaissance de soi que la souffrance. Il a assez raison de dire ça. Pour autant, la souffrance, elle est là dans nos vies. Être humain, c'est naître, souffrir et puis mourir à la fin. Heureusement qu'il n'y a pas que la souffrance et qu'il y a aussi des moments de bonheur, des moments de paix, des moments où on s'émerveille, où on s'aime, où on est aimé, où on donne de l'amour. Mais quand même, c'est vrai qu'on est plus facilement poussé à réfléchir quand on souffre, quand on est en échec, quand les choses ne vont pas, que quand tout roule et que quand tout glisse. Et dans ces moments-là, on savoure. Et dans les moments où on se casse la figure, on s'écorche le genou, on réfléchit. Donc, je crois qu'on a besoin des deux. Mais pour cela, reconnaître que la souffrance peut parfois nous contraindre à ouvrir les yeux, ça n'est pas pour autant dire que c'est chouette de souffrir. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'acceptation. en psychothérapie. Accepter qu'il y ait des choses qui nous fassent souffrir dans la vie, ça ne veut pas dire c'est bien de souffrir, ça ne veut pas dire c'est chouette de souffrir, ça ne veut pas dire pourvu que je souffre, ça veut juste dire de toute façon, ça m'arrivera, ça arrivera à tout le monde. Donc, il faut quand même que je me pose un petit peu pour comprendre d'où vient cette souffrance, quelles sont les solutions à lui apporter éventuellement.
L'acceptation diminue la souffrance. Alors, je ne sais pas pour une maladie grave comme le cancer, mais pour les petits aléas de la vie, si on l'accepte, ça passe relativement tout seul. Parfois, la douleur vient du manque d'acceptation, vient de la façon dont c'est injuste, pourquoi je me suis fait avoir, j'aurais pas dû m'y prendre comme ça.
C'est ça. Quand on n'accepte pas les obstacles qui sont sur notre chemin, on double notre dose de souffrance. Une fois de plus, ce n'est pas parce qu'on accepte qu'on ne souffrira pas, mais simplement, on s'évite la sursouffrance.
Voilà.
J'ai prévu de faire un pique-nique avec plein de copains. Ouais. Il pleut des cordes. Si je m'énerve contre la pluie, je suis deux fois plus triste que si je me dis c'est dommage, mais on va faire autrement. Je ne perds pas de temps avec des vaines luttes. Alors là où c'est plus compliqué, c'est dans le cas des maladies graves. Si on m'annonce que j'ai une maladie dont je vais mourir d'ici un an ou deux.
Et quand tu dis c'est ce qui peut t'arriver de mieux, tu vas évoluer, et il y a des choses pour que vous le preniez mal.
Absolument. Et si on me dit cette souffrance va te faire grandir, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Alors c'est peut-être vers ça que je vais aller. Je vais peut-être me dire accepte ce truc-là, essaie de vivre le mieux possible ce qui te reste à vivre. Par contre, j'ai aucune envie que ça me soit imposé de l'extérieur. Et c'est là aussi où toutes ces approches, tous ces regards, entre guillemets, philosophiques sur la vie sont des choses très subtiles. C'est-à-dire que si elles ne prennent pas naissance en moi, si ça n'est pas une décision personnelle, une construction personnelle, un cheminement personnel, d'abord ça ne marche pas et ensuite ça me rend fou de rage. J'ai pas envie que des biens portants me donnent des leçons sur la manière d'habiter ma maladie et la maladie qui va me faire mourir.
Je comprends. Est-ce qu'il y a des gens qui ne souffrent pas, vous pensez, Christophe André, ou très très peu ?
Je pense qu'il y a des gens qui souffrent mieux que les autres, c'est-à-dire qui sont capables justement de ne pas rajouter à leur souffrance en se désespérant, s'énervant, se révoltant, s'affligeant, en se plaignant, et qui prennent la souffrance inévitable et qui font de leur mieux avec elle. Et c'est un idéal que nous pouvons tous avoir. Par contre, non, je crois que la souffrance est inévitable, incontournable dans la vie de tout être humain.
Alors pourquoi sommes-nous si, à votre avis, inégaux ? Pourquoi il y a des gens qui se lèvent le matin avec un énorme cafard alors que leur vie va finalement, objectivement, pas si mal ? Et il y en a d'autres qui se lèvent plutôt joyeux le matin. Pourquoi on se lève avec des idées noires, des inquiétudes ?
On a plein d'explications. Il y a une première explication, c'est qu'il y a quand même des inégalités biologiques. Il y a ce qu'on appelle des tempéraments en psychiatrie, c'est-à-dire des prédispositions à avoir sans effort plutôt de la bonne humeur en soi quand on se réveille. Il y a une phrase chez Montesquieu qui me fascine, où il explique que tous les matins il se réveille, il est de bonne humeur. Et sans effort, sans rien. Et d'autres par contre, comme Sioran, où le matin il se réveille, il est déjà ravagé.
Il est plombé, le pauvre.
Voilà, et il va falloir faire des efforts pour remonter un petit peu son moral. Donc il y a quand même, tout comme il y a des bruns, des blonds, des gens qui courent vite, des gens qui courent pas vite. Il y a des inégalités à ce niveau-là, biologiques, mais qui sont évidemment rattrapables. C'est pas parce que vous n'avez pas tellement tendance à être musclé que vous pouvez pas faire de la musculation, pas beaucoup de souffle, que vous pouvez pas vous entraîner, etc. Après, il y a évidemment ce que nous avons vécu. Et c'est sûr que si j'ai eu une enfance dans un milieu très triste ou très angoissé, si j'ai eu des modèles de parents qui étaient eux-mêmes très tristes ou très angoissés, qui souffraient beaucoup, qui avaient beaucoup de difficultés, ça va quand même me laisser des petits circuits cérébraux m'entraînant, si je ne fais pas d'efforts, une fois de plus, naturellement, mes automatismes vont me pousser vers l'inquiétude, la rumination, la facilité à me laisser porter par la souffrance, etc.
Les enfants de taciturne ne sont pas guélurons d'office.
Non. Alors, parfois, vous savez, nos parents peuvent être des modèles, la plupart du temps, ils peuvent aussi être des contre-modèles. Il y a des enfants d'alcooliques qui décident de ne jamais toucher une goutte d'alcool. Mais il y en a d'autres pour qui, finalement, il y a une espèce d'imprégnation. Bref. Donc il y a ça, il y a cette biologie qui nous sépare, il y a ces trajectoires existentielles également, éducatives, affectives, quels événements nous avons eu à affronter. Et puis il y a aussi un bain environnemental, social. Là, aujourd'hui, c'est vrai que nous baignons, nous occidentaux, alors que nous avons des conditions de vie plutôt merveilleuses quand même pour la plupart d'entre nous, dans un bain de pessimisme, de morosité, alors qu'en vivant en démocratie, un pays en paix, on a de l'eau, de l'électricité, et pourtant beaucoup d'entre nous sont anormalement pessimiste, anormalement sombre par rapport à ce que
pourrait... Inquiet en tout cas.
Oui, voilà, dans l'inquiétude et puis dans le pessimisme. Alors je ne dis pas qu'il ne faille pas parfois s'inquiéter ou être pessimiste, mais parfois aussi on a le sentiment d'une sorte de pollution des esprits.
On est peut-être responsable un peu la radio. Hein. Quand vous l'allumez le matin, on s'en prend une dose quand même de choses tristes.
Oui, la radio et puis nous-mêmes. Quand vous rentrez chez vous le soir après le boulot, qu'est-ce que vous racontez à vos proches? Les moments joyeux, les moments agréables, les choses qui vous ont fait rire ou sourire, ou les emmerdements, les
mais
bouchons.
Mais non, tu sais pas, il m'a fait, j'y fais, j'y dis, qui me dit, j'y redis.
Voilà.
Les
et
conflits.
Donc, nous sommes tous les médias, les petites radios, les petites télés de nos proches, de nos collègues de travail. Donc la responsabilité est à partager.
Merci Christophe André pour ce dimanche soir agréable, doux et intéressant. 3 minutes à méditer, c'est pas beaucoup, un œuf coq. Hein. C'est votre dernier livre édité chez l'Iconoclaste et France Culture, ce qui n'empêche pas de lire les autres. À propos de ce qui nous conditionne, nous n'avons pas évoqué l'astrologie. Si j'en parle, c'est parce que la semaine prochaine, nous recevrons Françoise Hardy. Cet état d'esprit était réalisé par Simone de Poux avec Maxime Ingrand à la prise de son, Emmanuel Fournier à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. Vous pouvez nous télécharger et venir nous voir sur notre site. La semaine prochaine, nous parlerons du ciel et de la terre avec Françoise Hardy. Et après le journal, vous avez rendez-vous avec Brigitte Patient. Dans Regardez voir, elle évoquera la vie des photographes en 2017.